le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Antoine Guillopé, qui est auteur-illustrateur de King Kong, son dernier album paru aux éditions Gauthier Languereau. Il est lauréat du prix Album Jeunesse Nuit du Livre 2016 et je peux vous dire qu'il mérite. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Pauline Basset, qui est directrice éditoriale et l'une des trois fondateurs d'une toute jeune maison d'édition jeunesse, puisque les premiers albums sont sortis en septembre. C'est la maison Elisa, une maison d'édition qui est dans le 18e arrondissement. Pour essayer de consoler Carmela et son grillon Negrito de ces derniers mois qu'ils ont consacrés à l'aide aux réfugiés, je leur ai proposé de venir à Paris pour voir les illuminations de Paris, justement. Et je les ai amenés, bien sûr, sur les Champs-Élysées, où le marché de Noël s'est installé. Quelle idée idiote de ma part! Que n'ai-je entendu de la bouche de Carmela et de Negrito? Alors, c'est bon, non? Oui, mais toutes ces lumières, pour qui sont-elles? Je sais pas, moi, pour tout le monde, c'est gratuit, voyez bien. Mais tu es complètement lobotomisée par cette société, ma parole. J'étais tellement stupéfaite par la violence de cet insolent de Grillon que je ne répliquais rien. Carmela poursuivit donc. Negrito a raison. Toute cette énergie, cette lumière, alors que des milliers de gens vivent dans la précarité énergétique, sans chauffage, sans eau chaude, parfois même pas de quoi faire la cuisine sur des plaques électriques. Oui, bon, d'accord, je sais tout cela, mais on peut pas vivre dans le noir quand même. Non, certes, mais s'extasier sans essayer de changer ce monde, c'est vraiment fou. Carmel a raison de parler de folie, reprit Negrito. Tu vois, ces beaux cabanons en forme de chalet tout blanc, tout beau pour exposer des bibelots et autres objets du marché de Noël. Tu crois que ce ne seraient pas des abris plus chauds, plus dignes pour les familles de Rome et les SDF qui dorment dans la rue, sur les trottoirs avec ce froid? Oui, bien sûr, mais que faire? Que faire? Faillit s'étrangler Carmela. Mais réagir, protester, agir pour dire non. C'est là le début de la folie, votre apathie, votre acceptation. Cette société est schizophrène et vous vous étonnez de la violence qui monte. Mais elle ne vient pas de nulle part, cette violence. Le grillon eut, comme souvent, le dernier mot. Nous, en tout cas, ils ne nous rendront pas fous, mais enragés. Antoine Guillopé, King Kong, je l'ai sous les yeux, ce magnifique album paru chez Gauthier Languereau, tout en noir et blanc. Et à l'intérieur, nous en reparlerons avec des pages dessinées, des pages découpées au laser. Donc ça donne des pages aussi fines qu'une dentelle. C'est vraiment assez extraordinaire comme travail. Alors, King Kong, sur la page de garde déjà, on a le visage, je dis le visage de King Kong avec ses yeux qui nous regardent et on est totalement fasciné. On a du mal à s'en détacher et on a presque peur d'ouvrir l'album. Là, vous vouliez nous saisir dès le début.
Alors oui, effectivement, King Kong, c'est un personnage, une icône qui est extrêmement impressionnante. Donc, il fallait un visage fort, parce que déjà le gorille, de toute façon, pour qui a déjà croisé le regard d'un gorille, on est un peu mal à l'aise, parce que c'est un regard qui est extrêmement humain. Et donc, j'ai essayé de retranscrire ce regard humain qui nous fixe droit dans les yeux, qui nous défie presque d'ouvrir le livre, effectivement.
Tout à fait. Mais dès la page où on va retrouver le titre à l'intérieur, la première page, là aussi vous avez dessiné King Kong, mais de profil, et c'est un grand aplat noir, donc on ne voit pas le regard, on le voit de profil, plus un bateau au loin, tout en noir également, sur un fond blanc. Et là encore, King Kong est émouvant. C'est plus le côté fascinant et presque effrayant, c'est le côté fascinant. Et dans ce profil d'aplat noir, Moi, j'y vois presque, mais c'est sans doute mon imagination, un continent, l'Afrique ou autre.
Alors oui, effectivement, la présence de cette silhouette qui est au-dessus du bateau, parce que oui. En fait, ce bateau, évidemment, va en direction de l'île où vit King Kong, et il est comme une présence. Alors, on ne sait pas s'il est menaçant ou bienveillant.
Non, ça, c'est... du tout. Il est émouvant.
Il est plus doux à ce moment-là. Ouais. C'est vrai qu'on n'a plus du tout le visage inquiétant de la couverture, mais il est comme une présence. C'est pour ça que je l'avais fait en énorme vis-à-vis du bateau, pour qu'on sente déjà que sa présence... regarde les protagonistes de l'histoire, les protagonistes humains.
Alors, ils voient venir ce bateau et le texte commence à la page suivante. Ils sont venus sur cette île pour tourner un film. Et là, on a la première page découpée au laser. Assez effrayante aussi, hein. C'est une île qui n'est pas très accueillante. Il y a une montagne toute blanche qui ressemble à une tête de mort.
Oui, alors évidemment, l'histoire de King Kong, je n'en suis que l'interprète dans ce livre, puisque c'est issu du film de 1933. C'est absolument pas une création originale de ma part. C'était l'envie de toucher à ce mythe et d'en donner une version illustrée sous la forme d'un livre. Alors effectivement, il y a des éléments qui étaient incontournables, puisque dans le film, il y a cette île Skull Island, qui veut dire l'île du crâne, qui a déjà effectivement cette forme de crâne.
D'ailleurs, sur le texte va être très simple. Il va donner juste la narration et la dramaturgie de l'histoire, parce que l'histoire, on la connaît. Mais en même temps, même s'il est très minimaliste, il donne une ambiance. Mais à peine ont-ils débarqué que des indigènes capturent Anne, l'actrice principale, pour l'offrir au roi Kong. On va tourner la page. Kong est un énorme gorille. On va retrouver le visage de la page de couverture et à sa droite, une page découpée au laser comme vraiment une dentelle. Il s'empare d'Anne et disparaît dans la jungle. Et là, on retrouve aussi l'évocation du film.
Bien sûr.
Et tout au long, finalement, on n'est pas gêné de connaître l'histoire. Parce que vos illustrations et ce noir et blanc, ces découpes au laser vont amener des émotions. Et par exemple, sur cette page où plusieurs hommes perdent la vie au milieu de cette forêt hostile et Carl doit rebrousser chemin. Et là, on voit des hommes suspendus à des lianes qui sont en train de tomber et comme ils sont découpés, ces petites silhouettes, et ils sont dans beaucoup de vide, chapeau d'ailleurs à l'éditeur qui a fait un travail remarquable, on voit toute la fragilité, on les voit tomber, on les entend tomber. C'est ça que ça vous sert, la découpe laser ?
Alors, la découpe laser n'est pas qu'effectivement un ornement graphique qui est beau. Ça sert aussi à raconter l'histoire. C'est-à-dire que, qu'on soit sur le verso ou le recto de la page, il se passe quelque chose entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un espace-temps quand on tourne la page d'un livre. Simplement, comme les pages sont découpées, on se retrouve avec la même image une fois à l'endroit et quand on tourne la page, elle se retrouve dans l'autre sens. Donc il faut essayer de lui donner un sens, justement, à cette façon de voir deux fois la même page, sans avoir l'impression de lire deux fois la même image.
Sauf à un moment donné, c'est formidable parce que vous faites le lien, où King Kong, qui s'aperçoit donc que la jeune femme a disparu, rentre dans une colère folle. D'un côté, il est noir, donc, et de l'autre, là, il est blond et... avec des taches. Et c'est la première fois, et peut-être la seule, où il faut faire très attention en lisant ce livre, parce que tout d'un coup, arrive un détail, alors qu'on s'était habitué à tourner les pages, un détail que si on le ratait, eh bien, on raterait vraiment quelque chose de l'histoire.
Alors ça, ce sont des idées qui naissent au moment où je crée l'image. C'est le cinquième album que je produis avec cette technique de la découpe laser. Et au fil des albums, j'apprends moi-même à utiliser cette technologie et ce principe de découpage. Et c'est vrai que parfois, quelque chose est imprimé sur cette découpe, mais très rarement. Et ces grenades soporifiques là, qui sont jetées sur King Kong, c'était bien de les imprimer sur le singe, puisque ça donnait vraiment une image différente de l'image qu'on avait avant, alors que c'est exactement la même silhouette.
C'est donc une lecture attentive qu'il oui. faut faire, très attentive, alors que ça paraît très simple, ça l'est aussi d'une certaine manière, mais les enfants sont très attentifs, eux ne ratent pas. Même dans un petit coin de l'image, vous le savez, ça.
Oui, je l'espère.
Non, mais moi, j'en suis sûre, parce que je l'ai souvent constaté. Alors, on ne va pas passer toutes les pages, mais j'arrive à la dernière, avec beaucoup de blanc. Enfin, la dernière, j'allais dire l'avant-dernière, quand même. Parce que, tel un ange blessé, King Kong prend son envol, Anne sera sauvée. Et là, il bascule de la fameuse tour, et... Nous avons une vision subjective à partir de King Kong, c'est-à-dire que les tours sont tout à coup obliques. Et là, on est au cinéma avec cette vision subjective.
J'essaie d'apporter dans les images que je peux créer une vision cinématographique en jouant avec la notion de plan. Le gros plan, le plan américain, la plongée, la contre-plongée, et l'idée de la chute de King Kong, qui est effectivement la fin du film, et donc c'est quelque chose d'assez dramatique, parce que ce singe, il a beau être un peu effrayant, on a quand même de la peine pour lui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti enfant en voyant le film, et j'avais envie de faire passer aussi cette compassion, cette empathie pour le personnage, même si effectivement il tue des gens, c'est pas sa faute s'il est là. Et donc la vision subjective en contre-plongée, donc on peut imaginer que ce sont les New-Yorkais qui voient cet animal qui tombe et cette notion de ciel très très vide donnait plus de force aussi à sa chute.
Et on va retrouver ce grand vide blanc. C'est pour ça que je disais la dernière page, oui, mais pas tout à fait, puisque là où normalement on donne le générique du livre, il y a l'image veut dire encore quelque chose. On voit Anne, je suppose, qui est à la terrasse d'un immeuble et qui regarde lointain. C'est une silhouette noire, mais qui donne beaucoup d'expression. On imagine qu'elle a des sentiments pour ce King qui est mort. Vraiment un album splendide, merci de l'avoir fait. Alors, juste avant de passer à notre éditrice, qui n'en rate pas une, qu'est-ce que vous pensez de ce travail?
Il est magnifique, effectivement.
Pauline Basset, oui. Vous pourriez, toute jeune maison d'édition, éditer un livre avec découpe laser, etc. Ça doit coûter cher.
On aimerait bien, mais effectivement, ça coûterait très cher. Et on n'a pas assez de volume de production pour pouvoir...
Ça viendra.
Ça viendra, j'espère.
Alors, on retrouve tout votre talent, même lorsqu'il n'y a pas, Antoine Guillopé, la découpe au laser, mais notamment ce goût du noir et blanc avec Le Gardien des Océans, qui est une très belle... c'est presque une parabole, hein. C'est une drôle d'histoire.
Ah oui, c'est une drôle d'histoire. C'est un texte de Michael Escoffier qui est venu me voir avec cette idée, avec ce texte. Et en lisant le texte, là, c'est pareil, quelque chose se déclenche ou ne se déclenche pas en termes d'image. Et là, j'ai tout de suite adhéré à cet univers-là. Et donc, j'ai créé toutes ces images. Mais c'est vrai que c'est un album particulier. Il est un peu angoissant pendant toute une partie de l'histoire.
On est dans Jules Verne, on est dans des mythes, des fonds des mers, c'est pas bien.
Ouais, pour moi c'est un ovni un petit peu.
Oui, pour moi aussi. Mais il m'a fasciné.
Mais je pense qu'on a envie d'aller au bout, parce que c'est quelque chose qui m'importe. Évidemment, quand on ouvre un livre, le risque c'est que le lecteur, que ce soit un enfant ou un adulte, le referme au bout de 4 pages. Et ça, ce serait terrible. Donc, envie d'aller au bout.
Ouais. Je pense que les enfants vont l'aimer parce qu'on ne leur donne pas de solution aux questions que l'on se pose. Qui est ce gardien des océans? Est-ce qu'il sauve vraiment les hommes? Est-ce que c'est un requin? Je ne sais pas. Et les enfants aiment toute cette question. Je vous fais une confidence. À midi, j'ai déjeuné dans une brasserie. À côté de moi, il y avait un père et sa fille de 3 ans et demi, parce que j'ai demandé l'âge après, cette petite fille demandait à son père devant son croque-monsieur, « Papa, pourquoi on habite sur Terre ?» Vous voyez les grandes questions que se posent les enfants. Donc, s'ils s'en posent autour des dinosaures, vous en avez un aussi qui est magnifique, le jour où je suis devenue un dinosaure, toujours chez le même éditeur, Gauthier Langereau, et puis chez Piqué Jeunesse. Alors, ce petit album, noir, mais avec du vert, avec du rouge, avec pas mal de couleurs, du jaune. Et là, c'est Akiko la Malicieuse. J'ai adoré ce petit album. C'est un petit conte zen. Un petit conte zen qui est tout sauf mièvre. Puisqu'il s'agit d'une petite fille qui est prise par un mauvais génie qui lui fait faire plein de bêtises. Bon, pas des bêtises bien graves, mais elle enquiquine tout le monde au village. Et à la fin, pour s'en débarrasser, elle va le détruire à coups de maillet. Et c'est assez étonnant. Et j'ai adoré qu'un conte zen fasse la place à la colère et à la violence à un moment donné pour retrouver la paix. Je trouve que... voilà, chapeau.
Ben merci. C'est vrai que
c'est vrai que texte en plus.
Oui, absolument. Oui. Là, j'avais envie que cette petite fille se débarrasse, mais comme quand on a un sparadrap collé au doigt, à un moment, il faut faire un geste brusque pour s'en débarrasser.
Ben oui.
Et c'est un peu le principe de l'histoire, effectivement. À la fin, elle est obligée de requérir à la violence.
Alors, ce qui est amusant, je suppose que vous l'avez fait il y a quelque temps, cet album.
Cette année.
Mais avant la campagne de publicité dans le métro parisien, sur ces petites bêtes sur l'épaule de gens très bien habillés qui tricheraient dans le métro.
Vous l'avez là, je l'ai vu à la rentrée, oui, absolument.
Et on pense à votre... Ça vous a surpris, j'imagine.
Non, ça m'a surpris. Cette campagne m'a surpris, mais...
Même si elle est détestable.
J'avais pas fait le rapport avec mon livre.
Ah mais si,
parce que... effectivement, il y a cette idée-là de quelque chose qui...
Mais ça ressemble
à mauvaise conscience.
Je me suis dit, voilà, oui. Ah, oui, ça y est, ils ont piqué l'image d'Antoine Guillaume. Vous devriez demander des royalties. Alors, maintenant, Pauline Basset, nous allons parler d'édition, bien sûr de livres, mais quand même, cette petite maison d'édition, pour l'instant, Maison Elisa, vous l'avez créée à Troyes, dans le 18e arrondissement de Paris, en 2016,
oui.
Voilà, les premiers albums sont sortis
en septembre.
Quelle idée, au moment où tout le monde dit que l'édition est en crise, qu'il y a une crise économique en général, et qu'il y a énormément de livres qui sont produits, énormément de grosses maisons, des moyennes et des petites aussi, de créer une nouvelle maison d'édition. Qu'est-ce qui vous a motivé ?
D'abord, c'est une passion. Tous les trois, on aime énormément les livres jeunesse depuis toujours. Et même avant d'avoir des enfants, on aimait ça, on les achetait pour nous, etc. L'un des autres associés et moi, on a déjà fait des livres en tant qu'auteur illustrateur pour une autre maison d'édition. Et à un moment, on s'est dit quand même que ce serait vraiment formidable de pouvoir promouvoir d'autres auteurs illustrateurs, de faire des livres beaux comme nous, on l'entend, et d'essayer de trouver notre petite place sur le marché de l'édition, même dans un monde en crise.
Alors, beau comment vous l'entendez, ça veut dire quoi ?
Alors, beau au niveau du graphisme, au niveau de la finition, on essaye de vraiment, chaque projet est réfléchi en fonction du texte, de l'image, il n'y a pas de schéma type, et du coup on fait très attention aussi à la finition, les bords, est-ce qu'ils vont être arrondis, quelle taille, le papier à l'intérieur, la couverture, est-ce qu'elle va être avec un vernis sélectif, est-ce qu'elle va être mate, est-ce qu'elle va être douce, voilà, enfin beau dans tous les sens du terme.
Et puis, alors, vous dites que c'est une maison solidaire et responsable. Alors, Maison Elisa, édition solidaire et responsable, expliquez-nous.
Alors, responsable parce qu'on essaye au maximum de faire imprimer en France ou en Espagne ou pays frontalier à la France, mais jamais on ira plus loin. Donc les deux premiers sont imprimés en France, les deux suivants sont imprimés en Espagne. Le papier vient de forêts gérées durablement, donc pour chaque arbre abattu, pour les papiers, un nouvel arbre est replanté. Et le côté solidaire, on a envie de partager cette culture du livre, cette culture en général, avec des enfants qui n'ont pas forcément accès à la culture. Et donc, pour 5 livres vendus, on offre un livre à un enfant via des associations.
Ah, mais ça, il faut le lire, hein. Alors, vous avez combien de titres ?
On a 4 titres pour l'instant.
Ah, j'ai toute votre production sur
oui,
la table.
Oui, exactement.
J'en ai 4.
C'est ça. Il y en a 2 qui sont sortis en septembre et 2 qui sont sortis en octobre.
Alors, j'ai pris le plus petit, non pas parce que c'est plus pratique, parce qu'il est cartonné, mais parce qu'il est... C'est lui qui nous a attiré l'œil. Quelle est cette maison d'édition ? Quels sont ses auteurs ? Mizu et Yoko. Et le titre, c'est « Tout seul ». tout seul, c'est une histoire presque sans parole. Racontez-nous.
Tout seul, ben, c'est un projet qui a été fait par Laurie Cohen et Marjorie Béal, qui ont déjà pas mal de livres à leur actif, oui. Mais c'est un projet qui nous a particulièrement touchés parce que le petit pingouin, un peu maladroit, est très attachant et il essaye de se débrouiller et donc beaucoup d'enfants peuvent un peu s'identifier à lui.
Oui, c'est au moment où ils veulent faire leur lacet tout seul,
exactement.
Et qu'ils n'y arrivent pas, mettre la table et tout renverser.
Exactement.
C'est-à-dire, je sais faire, mais j'y arrive pas vraiment. Et il est très aventureux et puis têtu. Enfin, pas têtu,
oui,
non, il a beaucoup de courage.
Il est débrouillard, il essaye de se démener pour réussir à faire ce qu'il a envie, mais ça se passe jamais comme il veut. Et puis finalement, sur sa route, il va rencontrer un ours qui va devenir son ami. Et tout de suite, c'est beaucoup mieux à deux, beaucoup plus facile.
Et on retrouve les mêmes choses qu'il n'arrive pas à faire, pêcher, construire un igloo, etc., avec son ami l'ours, les mêmes actes vont être réussis et en plus partagés, ce qui va être une vraie joie. C'est un livre plein de tendresse, de malice aussi dans le dessin. Il est vraiment, c'est sur l'amitié, hein, sur l'obstination aussi, récompensée.
Oui.
Et sur la beauté du monde, parce que il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'aplats, on voit le ciel, et il est lent, cet album. Je sais pas si on peut parler de rythme dans un album, mais si,
bien sûr.
Il est lent, et réhabiliter la lenteur pour nous tous, c'est merveilleux et c'est même subversif, mais alors pour les enfants, je pense que c'est vraiment nécessaire.
Oui, oui. Et puis en plus, au-delà de tout ce message, ça fait beaucoup rire les petits parce que c'est le comique de situation qui fait qu'on le voit d'abord essayer, puis rater, et ça fait beaucoup rire les enfants.
Et il y arrivera à la fin. Alors, on va peut-être parler d'un autre, La Grande Inconnue, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le second. On peut résumer, alors c'est pas du tout le même genre d'illustration, hein. C'est
non,
du dessin un peu naïf, mais très expressif, beaucoup de couleurs.
Oui, c'est une jeune illustratrice qui commence à être bien connue, Maureen Poignonec, et on adore ce qu'elle fait, elle a un coup de crayon assez magique, assez expressif, et... elle utilise des crayons de couleur, de la gouache. C'est vraiment des techniques très traditionnelles, mais elle arrive à faire un dessin qui est très émouvant et très moderne en même temps. Donc,
et très malicieux, les personnages,
plein
que ce soit les poissons, que ce soit les lapins, ou la petite fille, ils sont vraiment très drôles. Alors, cette histoire, c'est une histoire d'ouverture au monde et de vaincre la peur des autres,
exactement,
de l'étranger, de
très
celui
actuel.
Qui est derrière la barrière qu'on va construire pour se protéger. Et c'est une vraie critique des médias, hein, dedans.
Oui, c'est vrai. Enfin, pas forcément des médias, mais de
la télévision.
Voilà, de la télévision. De ce qu'on peut dire à la télévision et que les gens écoutent forcément, sans forcément essayer de savoir par eux-mêmes ce qui se passe.
Voilà, donc... après, nous aurons Chichi Poilu, l'histoire d'une famille de rois et de reines du monde entier qui, finalement, se donne des petits noms ridicules. Mais on s'aperçoit que dans l'intimité, au fond, qu'on soit roi ou reine, on est toujours le petit Chichi Poilu de sa maman. Enfin, ça, en gros, c'est ça l'histoire. Et puis, un lion qui m'a beaucoup amusée aussi, parce que on y trouve un lion qui a un rendez-vous amoureux et qui va essayer d'avoir la plus belle crinière, évidemment. Et alors, il va essayer tous les coiffeurs, tous les styles de coiffure. Et donc, ça va être assez catastrophique. Et qu'un lion, un garçon, se soucie à ce point-là de sa coiffure, c'est pas mal aussi.
Il y a aussi un message derrière, effectivement.
Mais en même temps, léger, c'est-à-dire pas une inversion
oui,
totale
oui,
des codes, parce que c'est un peu ridicule aussi quand on veut être trop pédagogique. Mais je trouve qu'il est plein de finesse, de drôlerie et de tendresse, celui-là aussi. Maison Elisa, pourquoi Elisa ?
Alors, Elisa, c'est le nom de la maman d'un des associés qui nous a quittés il y a 3 ans un peu prématurément. Et donc, c'est un hommage à elle. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé et qu'on s'est dit, il faut essayer de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie.
Ah, c'est C'est une belle manière de continuer un héritage, une lignée et de transmettre. Alors vraiment, merci Pauline Basset. Vous allez faire votre premier salon du livre de Montreuil.
Tout à fait.
Vous avez un stand carrément ?
On a un stand, mais sur le grand marché. Donc c'est pas un très grand stand, c'est un petit stand de 2 mètres, mais c'est quand même un stand.
Alors cherchez les maisons d'Elisa dans ce grand marché qu'est le salon du livre de Montreuil. C'est émouvant, non, un premier salon ?
Ah oui, c'est très émouvant. On est très fiers, on espérait vraiment pouvoir y participer et c'est une grande fierté d'y être pour notre première année et pour pouvoir présenter nos premiers livres. Et les auteurs seront là aussi pour signer, pour dédicacer les livres.
Et dessiner. Merci Pauline Basset. Antoine Guillopé, vous y serez au Salon du Livre de Montreuil. Vous ne pouvez pas ne pas y être, je ne sais pas, vous allez avoir une file d'attente terrible.
C'est le rendez-vous incontournable. De la littérature de jeunesse en France, en tout cas. C'est vrai que c'est un des salons les plus importants. Un peu impressionnant, un peu grand barnum, mais forcément, c'est toujours agréable d'y aller et de rencontrer les lecteurs.
Vous avez le temps de parler avec les enfants qui viennent faire signer ?
Alors, je vais être honnête, sur le salon de Montreuil, c'est très rare que j'ai le temps de parler tout court. Parce qu'effectivement, il y a tellement de monde, tellement de bruit, que quand je suis en signature, alors c'est formidable, évidemment, mais... S'il y a une vingtaine de personnes qui font la queue, j'essaie d'aller au plus vite pour... Évidemment, si on pose des questions, je vais y répondre, mais c'est compliqué d'avoir un rapport intime et une discussion tenue avec un lecteur. C'est compliqué.
Alors, vous y serez plutôt le dimanche.
Voilà, le dimanche
le
et 4, le lundi.
C'est le 4 et le 5, je crois, ou le 3 et le 4. Enfin, voilà, c'est ce week-end-là. Surtout si vous y allez, et allez-y, amenez les enfants, mais... Ne vous couvrez pas trop, parce qu'il y fait très chaud, et ayez des bonnes chaussures, et soyez zen, parce que voilà, c'est un peu fatigant.
Il
faut être patient, mais alors on y découvre des pépites, il faut fouiner, et comme vous, Maison Elisa, j'ai découvert souvent dans ce salon ou dans d'autres salons, des petites maisons d'édition pas encore connues et qui méritent de l'être. Je ne sais pas comment on va d'un éditeur à l'autre, mais je me demandais si Antoine Guillopé, vous iriez, par exemple, signer un livre à Maison Elisa, parce que c'est quand même formidable, il faut les aider.
Absolument. Bah là, c'est vrai que sans aucun souci. C'est-à-dire que moi, ça fait 18 ans que je travaille, et évidemment, j'ai commencé par ce qu'on appelle les petites maisons d'édition, mais elles m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire que j'ai commencé avec les éditions Thierry Magnier au moment où lui-même commençait sa maison. J'ai commencé avec les éditions Autrement Jeunesse au moment où il lançait de la jeunesse.
Décidément, vous voyez.
Et toutes ces petites rencontres avec des équipes effectivement réduites permettent d'être extrêmement humain dans l'approche, dans le dialogue, et on peut proposer des projets un peu fous, un peu originaux. Il n'y a pas le long processus de certains comités éditoriaux, des grosses maisons qui mettent très longtemps à répondre. Donc moi, je les encourage. J'ai très peur pour eux. J'ai très peur de faire le métier d'éditeur. Je trouve que c'est un métier compliqué. On entend souvent de la critique vis-à-vis des éditeurs. Néanmoins, sans leur concours, on serait bien embêté, parce que pour gérer tout ce qui est éditorial, technique de fabrication, toute la coordination qui existe pour fabriquer un livre, moi, sans l'imprimeur qui va découper mes livres, mon livre il est moins bien. Donc le prix de la nuit du livre dont vous parliez au début, c'est un prix qui récompense justement le fabricant, principalement le travail entre un auteur, son idée et sa fabrication. Et évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Donc je suis assez content de croiser les jeunes éditeurs au grand marché, effectivement, à Montreuil. C'est très intéressant.
Formidable, la chaîne de l'édition, c'est passionnant. Et Rue du Monde avait fait un album qui expliquait aux enfants comment se fabriquer un livre, de l'imaginaire de l'auteur ou de l'illustrateur jusqu'à la vente chez le libraire. Retrouvez-le, parce que ça explique un peu la valeur d'un livre. Merci à tous.
Merci.
C'est formidable que vous soyez passés par ici avant le salon du livre de Montreuil. En quittant les chemins buissonniers, eh bien, on peut réécouter ou télécharger l'émission sur le site de franceculture.fr. Vous pourrez y voir aussi toutes vos œuvres ici présentes, télécharger l'émission, la réécouter, la conseiller, pourquoi pas. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe: Aline Paillet, Franck Lilin, Annie Comier, et à la technique aujourd'hui, Pierre Faucillon. Le temps buissonnier a filé trop vite encore une fois. Et je vous laisse en compagnie du premier journal de la journée ce dimanche matin. Excellent dimanche, excellent week-end et à la semaine prochaine.